Bobo, c'est quand tu veux.
Alors, donc, les vacances sont finies et tout le monde est de retour. C'est la rentrée des animateurs et de l'animatrice, donc.
Oui, merci.
Lolo, l'unique fille de... Mais bon, il va peut-être y avoir un peu de changement dans les semaines qui viennent, puisque pour l'instant, t'es l'unique fille, mais peut-être dans les...
Depuis la garçon.
Je vais changer. J'ai commencé ma transition. Je comptais l'annoncer ce soir.
Voilà. Tu vas devenir hétérosexuel.
Bah, déjà avec Boris, hein, deux doigts. Hein.
Mais on peut...
C'est une façon de parler de
oui,
droit.
La prochaine fois, on va s'habiller tous en noir. Non, Laurence, reviens.
Mais oui, on peut être hétéro et être chroniqueurisé ou pas?
Alors là, je me tâte. J'avais jamais pensé à ça.
Alors, il faut être hétéro, mais un peu...
Un peu ouvert. Voilà, ouvert.
Un peu ouais. Curieux. Un peu curieux.
Hétéro-curieux, comme on curieux. Dit. Okay.
Voilà. Enfin, moi, j'ai pas passé de test. Hein.
Mais je peux m'en charger.
Oui, après tout. Ouais. Moi non plus, tu m'iras. Ouais.
Bon, en tout cas, peut-être que dans les semaines à venir, il y aura du changement. On va peut-être... Bon, je dis rien. Je dis ça, je dis rien.
Des surprises?
Des surprises, voilà. Ah. Voilà, c'est pour maintenir le suspense.
Un suspense.
Pour inciter les auditeurs et les auditrices de nous continuer à nous suivre pour cette saison 2018-2019. Donc, Lolo est là, on a compris. Boris est dans le bocal. Et nous avons avec nous aussi... Voilà, tu fais très bien le poisson, Lolo. Oui. Nous avons aussi Yvan Mitifio, que nous connaissons bien à l'émission, puisqu'il vient ici depuis de nombreuses années.
Depuis 2011.
2011, oui. Comme le temps passe vite. Oui.
Et on ne s'ennuie pas. Et pourtant, je n'ai pas changé.
Non, c'est vrai, tu es toujours resté le même. Bref, tu es toujours
le même. Le même, jusqu'au bout.
8 ans, 8 kilos, c'est tout.
Donc, du coup, Yvan Mitifio, bien, bien connu, voilà, bien connu comme étant le directeur artistique du Festival Écran Mixte.
Oui, on est en pleine préparation. Beaucoup de pistes, on est très en avance cette année.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait un nouveau logo bleu cette fois-ci.
Bleu cette fois,
bleu,
voilà.
Bleu, bleu, le ciel bleu, la mer bleue, la Méditerranée.
C'est ça.
Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Peut-être. Et aujourd'hui, je viendrai vous parler de trois premiers films, deux qui sont déjà à l'affiche et un qui va bientôt sortir.
Voilà, parce que Yvan, entre autres, d'être directeur artistique, il parle de temps en temps, on sent de sa boîte et il parle. Donc, il fait les chroniques cinéma très régulièrement ici. Alors, j'ai avec moi, Michel, je te garde pour la fin.
Oui, hein. Pour la fin.
Voilà, on dit le mot. Voilà.
Je me tais.
Tu sais, s'il reste une petite fin, au cas où.
Il a dit que tu voulais plus.
S'il reste 30 secondes, c'est bon.
Il a failli partir. Hein.
C'est vrai.
Il a dit Gérald, il veut plus de moi, je m'en vais.
Non, j'ai forcé la porte
pas
pour
du
venir.
Tout.
Hein.
On va forcer.
Donc j'ai avec nous, nous avons avec nous Fabrice qui vient aussi régulièrement.
Salut, salut, ça va bien.
Comment va-t-il?
Bah ça va bien.
Se maintient.
Retour de vacances, la rentrée. Un peu déprimé quoi, comme tout le
monde. Déprimé.
Ah,
bah, moi ça va. Je suis
des jolies couleurs sur Fabrice, je trouve.
Oui, oui.
Bronzé.
Oui, oui, il a un joli bronzage. Bah, ouais.
Beau gosse.
C'est vrai.
Je sais pas ce que j'ai avec les hommes.
Oui, c'est vrai. Moi je me fais des soucis. Bon, et donc Michel qui a sonné, on lui a ouvert, t'as ouvert quand même.
Voilà. Oui, voilà. Gentil sur ce coup-là.
Il passait bien. Il a vu de la lumière, il se dit bien.
Voilà. Après, on te renverra à la niche. T'as ta niche là-bas, ta gamelle, ton écuelle, tout est prêt.
Ah, super.
Pour manger ce soir.
Ah, je suis trop content de la retrouver, ma gamelle.
Mais tu sais que c'est à la mode. C'est un fantasme très à la mode actuellement.
Mais c'est pas le mien, mon fantasme.
C'est pas le tien, les poupies. Les pupilles, tu veux pas faire le poupie?
Non.
En prendre en photo, on mettrait là dans un coin, dans ton fauteuil. J'ai le fauteuil du chien.
En train de virer, là. Les vacances, ça l'a tellement liquéfié qu'on en peut plus.
Non, mais j'ai le fauteuil de mon chien dans la voiture. Tu veux pas, non? Non. Bon, t'as pas amené ton masque de poupie, alors?
Ah, c'est autre chose que j'ai amené. Je te montrerai plus tard.
D'accord. Alors ce soir, on va parler cinéma, puis avec Fabrice. Alors comment on parlait avec Fabrice, justement?
Bon, bah des vacances, des retours de vacances, et puis des constats qu'on fait dans le gay international.
Ah.
Voilà.
Le gay international parce que le monde est mondialisé, c'est ça?
Bah ouais, quand tu pars en vacances, tu vas à peu près n'importe où, même à l'autre bout du monde, tu retrouves les mêmes codes, les mêmes critères, les mêmes mecs, les mêmes musiques, et c'est assez rigolo. Ouais,
c'est ça. Les codes de gay, ça, c'est
les
ça?
Les codes gay, j'ai l'impression.
Ouais. Ouais, c'est très gay.
Que j'ai observé. Et puis un petit phénomène aussi qui se passe depuis... depuis quelques années, j'ai l'impression que ça se mondialise aussi, la fête. T'as pas mal de fêtes qui se passent en Espagne, notamment avec le truc, je sais plus comment ça s'appelle, la fête en Espagne avec des mecs bodybuildés là.
Ah oui.
Circuit de festival, c'est
ça?
T'as la Folsom à Berlin, t'as des fêtes fétiches, voilà, et donc les mecs vont partout en Europe pour faire la fête au même endroit, etc.
Ouais, ouais.
C'est assez rigolo.
Mais d'ailleurs quand on n'est pas bodybuildé, par exemple, sur ces fêtes, on rentre ou pas? Il y a des fans,
des amis de ceux
qui font la fête.
Quand tu es poilu, barbu, un peu ventru comme toi, tu peux aller à la Berwick, par exemple.
excusez-moi, là, pardon.
non, t'as la Berwick qui irait très bien là-bas, par exemple. D'accord. C'est la fête des bears à Sitges.
Ou la fête de la bière, comme tu veux.
La Berwick.
À Munich.
Pas la Berwick, la Berwick. Et il y en a d'autres partout.
Après, je trouve que les bears, c'est plus naturel quand même que les bodybuildés, parce que ça sent quand même un peu le fake, le bodybuildé.
Bien sûr.
Un peu la construction.
Oh, bah, moi,
c'est facile d'être bear.
Regarde,
on est tous bears, presque, plus ou moins, sauf Laurence.
Presque.
Donc ça n'a pas tardé, Laurence, mais comment on est parti?
Donc en fait, c'est un constat que tu fais, mais un constat qui t'a... Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes bien dissipé.
On ne peut pas rire entre nous.
On a de la chance, il a oublié sa baguette.
Donc en fait, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu peux tomber sur les mêmes mecs?
Tu tombes sur le sol. Ah oui, alors après, t'as les fêtes comme ça, un peu spécialisées, on va dire, qui se passent un peu partout en Europe et puis dans le monde, que ce soit au niveau des thèmes fétiches ou de la communauté bear, etc. Et puis après, t'as le bar gay, que tu vas dans un bar gay un peu partout dans le monde et tu vas retrouver la même ambiance avec le même spectacle transformiste, avec les mêmes, plus ou moins les mêmes mecs. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu rigolo d'observer ça, et puis je me suis questionné.
Rigolo ou
désolant?
Non, rigolo.
Ah ouais.
Rigolo.
Eh bien, on peut peut-être écouter ton
petit... Eh bien, c'est parti,
voilà.
Donc, comme je vous disais, ça va pas du tout, je suis déprimé, c'est la rentrée. Même pas eu le temps de me laisser incuber la syphilis du beau Gunther, rencontré sur cette plage espagnole, qu'il faut déjà se remettre à trouver des idées pour les beaux yeux de Gérald et Laurence, histoire de remonter un peu la crédibilité de l'émission. Entre la 268e diffusion de We Are Family, ceci dit en passant, sorti en 1979, il serait peut-être temps de passer à autre chose, ou bien les gloussements vaginaux stridents de Michel, ou encore les interminables explications d'Ivan sur des films de PD chiants que personne n'ira voir si on n'y voyait pas autant de beaux mecs à poil. Bref, vous l'aurez compris, il m'incombe la lourde tâche de vous proposer une étude poussée, virile, réfléchie et objective sur notre chère communauté LGBTQIVW. J'ai oublié combien il fallait rajouter de lettres pour être suffisamment inclusif et ne froisser personne. J'étais donc au Magic Pink, dans une petite île de Koh Samui, en Thaïlande, en train de dilapider mon pouvoir d'achat d'occidental privilégié dans un 14e Mojito. Je regardais le magnifique spectacle transformiste proposé par les artistes haut en couleur de la boîte gay locale quand j'ai eu une impression de déjà-vu. Tout était autour de moi. Le travelot dépressif en train de nous faire son interprétation de All by Myself, la gloire déchue de 40 ans passés avec son débardeur ES, bien trop moulant quand on frise l'obésité morbide, le jeune naïf mais appétant que j'ai passé tant d'années à essayer de draguer en vain, et même le brun mystérieux qui pourrait être tellement sexy s'il ne se mettait pas à hurler comme une pucelle à sa nuit de noces sur les premiers accords de Bad Romance. Bref, au milieu de cette foule polyglotte, à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi, j'étais en terrain totalement familier. J'étais chez les PD, j'étais chez moi. Comment était-ce possible que, si loin, chaque détail était pourtant identique en tout point à mes soirées de perdition à l'UC? Les questions m'envahissaient, la tête me tournait, je ne marchais plus bien droit devant cette révélation mystique qui s'imposait à moi tel le Eureka d'Archimède. J'étais peut-être sur la piste du mystère de l'homosexualité et je devais absolument creuser. 2-3 mojitos, une danse aussi peu contrôlée que pathétique sur le podium crasseux du Magic Pink, une pelle goulue avec le beau, je ne me rappelle plus son prénom mais ça m'a coûté ma carte bleue, un petit vomito dans les toilettes et une bonne nuit de sommeil pour qu'enfin je reprenne mes questionnements. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si Chantal la nuit a révolutionné la nuit gay internationale en mélangeant quelques travelots, 2-3 bobos, des gym queens et de la musique de beach, mais bien de trouver un moyen de guérir le monde de l'hétérosexualité qui nous impose de casser toute une ville pour fêter une coupe du monde ou de porter des chaussettes avec des tongs. En bref, en essayant de comprendre ce qui faisait que les PD étaient les mêmes à Koh Samui, Lyon, Paris, New York, Berlin, Londres ou Clermont-Ferrand, je pourrais comprendre ce qui fait qu'on est PD et ainsi sauver le monde du mauvais goût, de la beaufétude, des guerres, des cunnilingus hétérosexuels et autres pratiques dégoûtantes. Pour résoudre le problème, il y a la question de l'inné et de l'acquis. Bah oui, il faut comprendre si la similitude PD que l'on observe à l'international est de base dans les gènes purs du gay ou s'ils sont transmis par ses pairs. Commençons par les manières. Bon, c'est vrai qu'un gay danse bah, comme un gay. Moi le premier, hein, vous me mettez toxique de Britney Spears et impossible de m'empêcher de me frotter frénétiquement contre tout ce qui se passe devant moi. Bon, disons à qui. C'est vrai qu'on a tous en tête la culture pop US mondialisée et qu'on mime nos divas. Mais le gamin un peu trop efféminé qui se fait tabasser à la récré, bah plutôt inné, je veux dire. Il est né comme ça, un peu faux-folle, paix à son âme. Et puis, il ne le sait pas encore qu'il est gay. Alors de là à s'identifier à un groupe pour en adopter les comportements, bon, cherchons du côté de la psyché. On va pas se mentir, hein, le gars est globalement intellectuellement supérieur à la moyenne. Il travaille dans la mode, dans les médias, dans la création de manière générale. Bon, peut-être a-t-il une structure du cervelet différente qui lui confère des aptitudes particulières et un goût prononcé pour les chanteuses à voix ou à string. Pour le savoir, il faudrait que j'ouvre une tête de gay pour voir comment c'est fait dedans. Mais bon, les nazis l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils n'ont rien trouvé. Voyant où tous ces questionnements me menaient, je me suis dit que peut-être j'allais un peu trop loin. À défaut de réussir à faire basculer l'humanité du côté rose de la force, je me résigne donc à vivre dans une société hétéronormée sans même savoir pourquoi. Pourquoi je suis comme ça et pas eux, pourquoi j'ai dépensé 98 euros dans le coffret collector de luxe édition de Lara Fabian. Si comme moi la question du pourquoi parfois vous obsède, sachez que où que vous soyez, par-delà les océans, s'il y aura presque toujours un bar, un cabaret ou un lieu sordide où vous retrouverez nos frères de Poppers et ainsi constater que oui, nous sommes une famille et que par conséquent, vous pourrez gesticuler gaiement et librement au rythme de We Are Family.
Ah, bravo!
Just like
Eh bien, welcome back dans le studio avec donc tous nos chroniqueurs et notre chroniqueuse, notre animatrice, notre co-animatrice, Laurence. Laurence, tu es partie en vacances.
Oui.
Aussi, tu es allée à Barcelone.
Je suis allée à Barcelone.
Alors moi, justement, je pensais à quelque chose parce que Fabrice donc, nous a fait une chronique fort intéressante sur les gays.
Et comment changer le monde.
Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait dire que la même chose existe pour les nanas? Pour les girls, pour les lesbiennes. Est-ce qu'il y a des circuits comme ça? Ou est-ce que, par exemple, à Barcelone, je sais que c'est une ville qu'on dit gay-friendly, certes, mais aussi lesbienne-friendly.
Oui.
Et qu'est-ce qui peut déterminer qu'une ville sera, par exemple, lesbienne-friendly?
Alors, c'est pas compliqué, c'est qu'à chaque fois que tu tournes dans une rue, tu vois un couple de femmes qui se tient la main.
Oui. Tout simplement.
C'est tout.
Ouais, ouais.
D'où la chanson.
Mais c'est incroyable. Hein.
Et ça n'a rien qui piche au pied la morale.
Non, mais c'est incroyable.
Ouais, ouais.
C'est des couples d'hommes aussi, mais les hommes, ils ne se tiennent pas par la main. Mais les couples de femmes, c'est à l'aise, quoi.
Ouais, ouais.
Totale liberté.
Et donc, dans les bars lesbiens, tu retrouves un peu la même ambiance que dans les bars français.
J'ai pas fait de bar lesbien. Non,
voilà,
j'aurais pas de dire
une
ça.
Différence, déjà. Laurence part en vacances à Barcelone. Qu'est-ce qu'elle fait? Ne court pas les boîtes et les
bars. Bah oui, bah oui.
Elle fait du tourisme culturel.
Elle fait de la randonnée, non? Qu'est-ce qui différencie? C'est la randonnée chez les lesbiennes.
Avec
les
chemises à carreaux.
Voilà, c'est ça.
Et mon pantacourt qui est choix.
On trouve les lesbiennes sur les chemins de randonnée.
C'est ça.
Parce que c'est vrai qu'on a noté la...
Tu sais que j'étais avec ma fille quand même.
Oui, oui, en plus, oui, c'est vrai que tu étais en famille. Tu avais ta femme, ta fille...
Il y aurait juste eu ma femme, à la limite, où on serait ouais, dans un bar lesbien avec ma fille. Ouais. Je me suis bon.
Ils auraient du thé, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Non, mais c'est vrai que Fabrice disait dans sa chronique, de façon humoristique, il y a une idée reçue comme quoi les homos sont plus cultivés, qu'ils aiment les sorties au musée, etc. Mais non, pas du tout, parce que quand on va situer sur Barcelone, on n'a pas vraiment l'impression que les homos ils font du tourisme, je veux dire, dans ce sens-là, plutôt du tourisme cul.
Ah, Sitges plutôt. Ouais.
Oui, Sitges. Mais Sitges, c'est joli. Oui, il y a plein de choses à voir autour de Sitges. Mais il y en a plein, ils arrivent, tac.
Ouais, enfin, pas grand chose à voir à Sitges une fois que t'as fait le pâté de maison et l'église, on parlait pas.
Tu peux aller dans la montagne derrière, il y a Montserrat, tout ça. C'est
dans les dunes, tu veux dire? C'est des dunes.
Des petites montagnes, Gérald.
Des montagnes nettes.
Bon, enfin bref. Les collègues de Poppers. Nous, on vient, c'est collègues de Pampers, bientôt. Non? Bah si. Parce qu'on est vieux.
Oui, ah oui, d'accord. Oui, oui.
C'est parce qu'on est vieux. Ils bien tous les deux, ça y est, ils ont
vu. Il y avait quand chose.
C'est à cause de l'âge que je dis
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
On va devoir porter des couches, nous aussi. Il parlait de collègues de Poppers, de frères de Poppers, mais nous, c'est les frères de Pampers que nous allons mettre. Non? C'est pas ça, autre chose, peut-être.
Ouais, on compre autre chose.
Oui, non, c'est autre chose. Enfin bref, est-ce que la Sagrada Familia, au moins, à Laurence, ils ont continué le chantier, ça a
toujours
progressé?
Toujours, bon. C'est sans fin ce truc.
Oui, c'est sans fin,
c'est sans
effectivement.
Fin. Mais Barcelone, non, faut y aller, c'est génial, c'est vraiment incroyable. Il y a tout le monde qui se croise, il y a tous les âges, il y a toutes les cultures, il y a je sais pas combien de centaines de nationalités. Il y a
les maisons de Gaudi aussi, c'est super. Je sais pas si t'as fait un peu les maisons.
Il y en a plusieurs,
c'est génial.
Barcelone, tu peux vraiment tout faire. Dans la même ville, tu manges bien, tu bois bien, tu peux visiter, tu peux te cultiver, tu peux te baigner, tu peux draguer, c'est incroyable.
Tu peux baiser.
Mais ça, c'est notre.
Non, mais en une seule ville, il y a tout ça.
Ouais. Et la mondialisation, donc on peut dire ça peut concerner aussi les filles comme les mecs finalement. Qu'est-ce que t'en penses, Laurence? T'as peut-être pas assez de.
Bah déjà le
de
truc.
Recul.
Non mais déjà rien que. Bon après. Rien qu'à Lyon, déjà moi je trouve qu'au bout d'un moment tu tombes toujours sur les mêmes meufs.
Ouais.
Bon après c'est normal, après c'est Lyon, c'est le petit. Alors après te dire si les meufs de Lyon elles vont faire le festival en Espagne, si elles vont faire, il y a un festival aussi. En Italie, etc., ça je saurais pas te le dire, mais oui, je pense que c'est le même principe.
Ouais,
peut-être un peu moins quand même, il y a de manière générale, la culture gay PD est vachement voyante, peut-être plus que la culture lesbienne, quoi.
Elle paraît plus cul déjà, tout simplement.
Oui, enfin, aussi, moi aussi, ouais, carrément.
Non, mais ça c'est une impression. Ça. On va pas encore avoir ce débat.
J'aime bien alors, ce débat, c'est vraiment ça.
Ce débat sur les hommes ils baisent et les femmes elles se brossent les cheveux.
Et Laurence va finir en disant je baise, je
non,
tiens
mais
à vous, moi aussi.
Enfin bon, oui, bref. Oui.
Voilà, bref, on va se tourner maintenant vers donc, mon futur collègue de Pampers. À quoi pensais-tu que je faisais allusion?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Pourquoi tu dis Pampers?
Bah parce que c'est des couches.
Mais bon, c'est Pampers.
Ah, c'est Pampers. Ouais, ouais. Moi, je dis Pampers. Ouais. Ah, oui.
Il a dit la française.
C'est Pampers, ça, Pampers.
Pampers. Et je viens vous parler de trois premiers films. T'interviens
quand tu veux, Michel.
Trois premiers films à Télo Chiant, justement, comme tu disais tout à l'heure. Il s'est vexé, j'étais sûr qu'il se vexerait. Non, donc deux films qui sont sortis mercredi dernier, et un film qui va sortir le 10 octobre, et dont Écran Mix va faire l'avant-première dans deux semaines au Comédia. Ce sera le film Girl, qui a obtenu la Queer Palme et la Caméra d'Or officielle de Cannes, le prix de la meilleure première réalisation. Alors, le premier film dont je vais parler, c'est un film iranien qui s'appelle Il ou Elle. C'est un premier film donc réalisé par une femme, une élève de d'Abbas Kiarostami, et elle a fait une sorte de
ils sont tous bien.
Oui, comment dirais-je, le titre original c'est Zay, donc eux. C'est l'histoire d'un jeune ado de 14 ans qui décide de ne pas s'auto-définir, en fait. D'où le titre français un petit peu bizarre, Il ou Elle, qui laisse supposer une binarité, en fait, pas du tout. C'est un personnage donc qui se fait appeler eux, en fait, donc Zay, et qui vit comme ça avec ses parents. Donc c'est une sorte de chronique non narrative, non linéaire. Donc c'est quand même un film très exigeant à regarder. Il faut avoir pris un bon espresso avant, il faut être en bonne condition, il faut pas que ce soit un jour de pluie non plus.
Faut pas être au bord du suicide.
faut pas venir se faire plaquer non plus. Voilà, il faut être en bonne condition.
Et du coup, en voyant la bande-annonce, j'ai pas compris s'il était né, enfin si c'était une personne née avec un garçon, avec un sexe de garçon, qui se posait des questions sur son identité de genre, ou si c'était quelqu'un d'hermaphrodite, parce qu'il y a des personnes aussi qui naissent avec des sexes indéterminés, avec les deux sexes, et où il y a un choix à faire médical.
Donc là, en fait, c'est assez flou, le film. Le film est assez flou. C'est un film qui prend vraiment le parti pris d'être avec ce gosse qui décide de ne pas se définir. Il est tel qu'il est. C'est quand même assez rare, et moi, je suis assez sensible à ce discours-là et de le fait de le montrer. Par contre, effectivement, il faut s'attendre à un film iranien, assez lent, filmé quasiment en temps réel, dans lequel il n'y a pas d'action. Voilà, donc c'est quand même un film très exigeant. Si le cinéma sur les questions de genre vous intéresse, c'est un film quand même très intéressant, avec une vraie patte très sensible. C'est un film quand même qui a été produit par Jane Campion, quand même, tout de même. C'est un film qui a été aussi sélectionné en sélection officielle au Festival de Cannes, hors compétition. Un film qui a été aussi sélectionné à Deauville. Donc c'est un vrai film d'art essai, mais sachez que c'est quand même un film extrêmement exigeant.
Il y a une loi allemande, je crois, qui est étudiée en ce moment, justement, pour faire un troisième genre qui permettrait de ne pas se définir comme elle ou il.
Ça a été voté, effectivement. Un genre neutre, en fait.
Un genre neutre, ouais. Oui.
Mais qui ne résout pas tous les problèmes pour les personnes intersexuées.
Voilà. C'est-à-dire que ce personnage, donc, qui a 14 ans, prend des hormones depuis 2 ans. Et donc, il arrive au bout.
Dire, ça se passe en Iran, c'est ça ?
Non, ça se passe en fait. Non, ça se passe dans la communauté iranienne immigrée à Chicago, aux États-Unis.
Oui, d'accord. Voilà. Parce que trouver des hormones en Iran, ça doit être plus compliqué.
Donc, ça se passe aux États-Unis, dans la communauté iranienne. Mais ce personnage, donc, est arrivé au bout de son protocole et doit choisir maintenant si il va devenir un garçon ou une fille.
D'accord.
Mais il veut pas prendre. Ce personnage ne veut pas prendre de décision. C'est intéressant quand même. Et il est actuellement au cinéma opéra. Il n'y a que là que vous pourrez le voir. Le cinéma opéra qui continue à sortir des films que les cinémas, on va dire mainstream, traditionnels, même à RSC, continuent de ne pas sortir. Heureusement que le cinéma opéra est encore là pour faire un peu de résistance et de montrer ce qu'on ne peut pas voir.
D'accord. Ça veut dire qu'il ou elle, on ne peut le voir
qu'au cinéma opéra à Lyon actuellement. Il marche bien, tous les cinémas le gardent. Faites votre propre avis. En tout cas, c'est une vraie expérience.
C'est lequel, le cinéma opéra? C'est celui qui est
Otero.
C'est Otero, c'est ça?
Ouais. Otero vers l'opéra.
Ok.
Voilà, opéra.
Non, parce qu'il y avait un petit cinéma aussi où j'avais été une fois dans le bas des pentes, qui est tout minuscule.
T'es sûr que c'est un cinéma?
Mais c'est vraiment juste une salle, genre.
C'est le cinéma.
C'est le cinéma. Voilà,
un passe
ouais.
Polycarpe.
C'est ça. Ouais.
En fait, le cinéma opéra, en fait, c'est une sorte de complexe de deux salles, en fait.
Ouais.
Donc c'est le même propriétaire. Il y a une salle au cinéma opéra, une salle impasse Polycarpe.
Ok, d'accord. Voilà.
Et c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu underground, sympa.
Bah ouais, carrément.
Dans cette salle de 40 places. Le deuxième film, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, c'est Sauvage, qui est sorti également mercredi dernier, le 29 août, que plusieurs personnes ont vu sur le plateau.
Tout à fait, et on y voit de très jolies, bites.
On avait fait l'avant-première avec Écran Mixte au mois de juin, en présence du réalisateur et du comédien Félix Marito.
Et vous aviez fait une interview qu'on avait diffusée ici aussi.
Oui, pour la dernière émission de l'émission.
L'interview du réalisateur et de l'acteur... Félix Marito et du réalisateur, donc Camille Vidal-Naquet,
dont c'est le premier long métrage et qui a réalisé plusieurs courts-métrages absolument fabuleux, dont un intégralement en langage des signes. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément aux outsiders. Voilà. Là, c'est son premier long métrage. Je ne sais pas si vous avez envie d'en dire quelque chose.
Parler de belles bites.
Non, c'était chouette. Pour moi, c'est un film qui est vachement sur la poésie aussi. C'est-à-dire que il rentre pas vachement dans la psychologie du personnage, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. On parle à peine de son histoire familiale, par exemple, etc. Mais c'est vraiment un film sur le sensoriel. C'est-à-dire que déjà le jeu de l'acteur est vachement animal et vachement sur le ressenti. Il l'incarne extrêmement bien, ce personnage-là. Et puis c'est un film qu'il faut plus essayer de ressentir que de comprendre. Après, j'ai pas trouvé ça spécialement compliqué ou chiant ou un télo. C'est juste un spectacle qu'il faut vivre comme ça. Un film qu'il faut vivre comme ça, je crois.
Le sujet, déjà. Donc ça parle quand même d'une histoire de prostitution masculine.
Ah oui, voilà.
Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le réalisateur prend le parti vraiment de parler de la précarisation de la majorité quand même des personnes qui se prostituent. Il romantise pas du tout les choses. Il montre ce que c'est que de dormir dans la rue, que d'avoir faim, que de manquer de soins. On est avec le personnage, on bat le pavé avec lui, on dort avec lui, on baise avec lui, on a envie de dire, on souffre avec lui, on prend des coups avec lui. C'est effectivement, comme tu le dis, un film extrêmement sensitif, sensuel. L'acteur Félix Marito, qui à mon avis, tout le monde le dit, va avoir le César du meilleur espoir masculin, joue de manière complètement instinctive. C'est lui-même un bad boy dans la vraie vie. Il y a une mise en scène extrêmement réaliste, crue, qui ne cache rien, qui montre la violence des sentiments. Et ce que j'ai trouvé très beau dans le film, c'est que c'est un personnage en quête d'amour absolu, en quête de câlin et en quête d'amour. Vous vous rappelez le film « J'embrasse pas » d'André Téchiné ? Là, c'est un petit peu le contraire, c'est « J'embrasse », puisque le personnage embrasse, souhaite embrasser chacun de ses clients. Il est en quête de figure paternelle, quelque part. Il cherche l'affection. C'est un personnage qui crève d'amour et remarquablement joué par Félix Marito, qui a époustouflé tout le monde, je pense, qui était aussi au Festival de Cannes à la semaine de la critique, à la quinzaine des réalisateurs, pardon.
Boris a vu le film.
Ouais, un mot, moi je l'ai vu, c'est un film moi qui m'a bouleversé. Et il y a tout ce que vous avez dit déjà et effectivement sur le fait qu'on n'est pas dans une romance de ce que serait la prostitution. On est avec lui, on vit. Il y a pas de c'est pas bien pensant, voilà. Donc ça c'est chouette. Et moi quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le fait de filmer les classes populaires. Les classes prolétaires, celles qui n'ont que finalement, c'est le cas de le dire, leur force de travail et là leur corps. On voit des migrants. Et moi j'ai trouvé ça, et sans aucune condescendance, c'est chouette parce qu'à l'intérieur de ce film, ils sont vivants, ils sont aussi joyeux quelquefois, même si c'est difficile, on le voit bien. Mais en même temps, il y a cette, je trouve que c'est un hommage aussi à tous ces garçons, tous ces hommes qui sont dans le film là et qui font le trottoir. Je trouve que il a une façon de filmer qui était très belle. On sent qu'il aime l'être humain et dans toute sa complexité.
Et puis effectivement, il montre la précarité, il montre que beaucoup de personnages aussi se prostituent aussi pour pouvoir payer leur dose de drogue, de crack, pour se défoncer. C'est un film quand même assez saisissant. Le réalisateur filme caméra à l'épaule pratiquement tout le temps. Il suit le personnage, il est pratiquement à tous les plans.
Alors moi j'ai lu une interview, il disait d'ailleurs qu'il a passé 3 ans à être dans une asso, il a passé la porte d'une association qui justement est en lien avec les prostituées et du coup il a pu aussi partager des moments. Il dit il n'y a pas une façon de se prostituer, il y a des personnes et ces personnes ont des histoires singulières. Et du coup, je pense que ça se ressent quand même dans le film. Ça, on a quand même une tu le disais tout à l'heure, mais il y a une vision de la prostitution masculine qui est, on va le dire, on emploie le mot, un peu bourgeoise, très romanesque, qui, en gros, les beaux garçons comme ça qui s'offriraient parce qu'ils aiment ils aiment coucher. Alors pourquoi pas aussi avoir un peu de thunes en plus, etc.
C'est la prostitution hétéro surtout.
Bah.
Prostitution gay, c'est pas trop ça, quoi.
Bah non, mais après que ça soit pas ça, la réalité, elle est très, voilà, elle est très différente. Mais on a un peu ce sentiment, et les réseaux sociaux aussi peut-être alimentent ça aussi, puisqu'on sait que la prostitution aussi passe par ces réseaux-là, et donc on a moins la vision du prostitué qui attend comme ça.
Et qui est dans la rue,
Et du coup, c'est un peu comme si ils étaient invisibles. Ils sont de plus en plus. Invisibilisé. Et du coup là c'est chouette de pouvoir aussi montrer ça
C'est ça, lui c'est un SDF le personnage, ouais. Donc de joué par Félix Marito, évidemment il a pas de smartphone, il a pas d'ordinateur, il a pas de maison, c'est un SDF, donc c'est la rue, il dort par terre, il se lave dans les caniveaux, et ça montre aussi un aspect de la prostitution effectivement anti-bourgeoise, hein. On a toujours l'impression que on est calmement chez soi, en sécurité, en train de sur les applis à choisir un mec. Non, c'est pas que ça aussi. Et l'osateur prend le parti pris de montrer ça. C'est un vrai parti politique à mon avis, un parti pris politique.
Mais du coup, je pense qu'il fait plus le portrait d'un mec, de l'histoire d'un mec, de l'histoire de la prostitution, parce que objectivement aujourd'hui la prostitution masculine, justement, comme tu disais, c'est plus sur les réseaux, quoi, sur Guerre Roméo, etc., avec les escortes.
Mais c'est ça
les,
aussi.
Les mecs qui traînent dans la rue, il y en a presque plus, quoi. À Lyon, avant il y en avait un peu sur les quais du Rhône, maintenant il n'y en a plus du tout.
Ou alors on ne les voit pas. Ou alors ils ont été chassés, on ne les voit pas.
Essentiellement sur Internet, quoi, la prostitution.
Mais d'ailleurs, on voit ces migrants, parce que pour un certain nombre d'entre eux, quand même, ils sont migrants. Et il y a quand même cette solidarité entre
Russe,
eux.
Il y a
aussi ça, quoi, qui est ultra touchant. Et il y a des moments de bonheur. Ils ont des moments de bonheur. Et en ça, c'est en ça que je trouve que c'est pas. C'est pas bien pensant, c'est-à-dire que c'est la complexité. Il y a une complexité à la fois, on a des scènes qui sont très très difficiles. Moi, il y a des moments où j'ai pas regardé l'écran parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et à la fois, il y a ces moments assez magiques où ils nous emportent jusqu'à la fin. On raconte pas, mais où il y a des moments de poésie, il y a onirique comme ça, des moments de grâce qui sont incroyables.
Et il fait aussi le portrait de consommateurs, de prostituées qui sont vraiment dans une misère sexuelle complètement, hein, et de misère affective aussi, avec un personnage qui va le recueillir chez lui et qui montre bien là aussi la misère affective qu'on peut avoir quand on a 50 ans, hein, que Gérald connaît très très bien.
J'en étais sûr.
Tu t'en approches, tu sens pas la cinquantaine, rapproche de toi.
Et aussi une sorte de misère aussi, avec une scène absolument quasi irregardable, avec deux hipsters absolument à tuer qui utilisent le personnage comme un véritable objet. C'est une scène à vomir, d'une violence absolue. Et le réalisateur montre ça aussi, sans concession, ce que peut être aussi le milieu gay, ce que peut être la violence aussi des homo-consommateurs aussi, quoi. Il montre.
Et puis les scènes, on va dire, entre les clients et le prostitué, à aucun moment. Ça, je trouve ça très très bien filmé. Il n'y a pas d'érotisation, c'est pas érotisé. Exact. De la même façon que d'autres scènes que je peux voir dans le cinéma PD, quoi. Là vraiment, et c'est une des rares fois quand même où je me suis fait cette remarque, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai vu ces scènes-là, à aucun moment on était dans une forme d'érotisme.
Ouais, c'est quand même super érotique tout le temps, les plans sur son corps, etc., sur le début de
les plans, et tout, les, non mais alors les plans effectivement de son corps, le fait de,
et puis ils ont pas pris un moche, quoi, tu vois.
Non mais son corps à lui effectivement, il y a quelque chose sur la beauté des garçons, l'attirance, le fait qu'effectivement il plaît, donc il y a cette question là mais dès qu'on est sur le rapport, là je parle vraiment du rapport avec le client
ouais.
Là on n'est plus du tout là-dedans, et d'ailleurs mais c'est là où tu as raison, c'est que moi je trouve qu'il y a cette différenciation, c'est-à-dire qu'il y a cette beauté-là qui nous explique, parce qu'effectivement, il est incroyable, c'est une bombe. En tout cas, moi je trouve que c'est une bombe. Et du coup, il y a ce pendant-là, dès qu'il est dans une relation, dès qu'il va être dans une relation de commerce finalement, hein, et ben tout ça s'évanouit. Et il fait même un peu sale, un peu voilà, il y a ce côté-là, un peu crasseux.
Alors, il faut parler quand même du comédien. Moi, je trouve qu'il est absolument incroyable. Moi, il me rappelle un peu, dans sa liberté, un acteur comme Denis Lavant. C'est sa manière de jouer complètement instinctive, la liberté qu'il a avec son corps. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé aussi sur la danse. Donc, on sent aussi cette maîtrise qu'il a de son corps, cette manière qu'il a de se libérer. Il me rappelle énormément Denis Lavant, notamment dans le film de Léo Carax, où il déploie son énergie et son corps de manière incroyable. Voilà, c'est l'acteur en ce moment à la mode, hein. On l'a vu dans le dernier film de Yann Gonzalez, Un couteau dans le cœur. On l'a vu aussi dans 120 battements par minute, un petit rôle. Et c'est un acteur dont on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Il y a notamment un téléfilm là qui va passer sur Arte que j'ai vu, qui est absolument magnifique, où il a le rôle principal. C'est, à mon avis, le prochain César du meilleur acteur. Allez le voir, c'est sauvage. Alors le film cartonne, marche super bien. On est vraiment très, très heureux.
Pour revenir au personnage joué par donc l'acteur Félix Mariteau, lui-même ne joue pas le rôle d'une personne migrante. Il est
français, précarisé total.
Voilà, c'est une personne précarisée, mais
droguée. Voilà, c'est. Il est vraiment voilà, il n'a pas de travail, il est drogué, il vit à la rue. Il est français. Oui, il est franc, il est blanc, comme on dit.
Ouais. Donc, Et puis toi, tu citais tout à l'heure le film d'André Téchiné, J'embrasse pas. La différence entre les deux, puis qui traite aussi de la prostitution masculine, d'ailleurs, le film J'embrasse pas. La différence, c'est que Félix Mariteau joue un personnage homo.
Oui.
Alors que dans André Téchiné, le personnage se prostitue par nécessité, mais il est hétéro, en fait.
Oui.
Il force sa sexualité. Enfin, en fait.
Un gay for pay, comme on dit.
Voilà. Donc Félix Mariteau,
mais c'est abordé quand même dans le film, puisqu'il y a d'autres personnages qui sont plutôt de...
Comme ça, effectivement. Effectivement. Oui, il est notamment amoureux de son collègue de prostitution, qui est lui hétéro, et qui lui cherche la sécurité, donc il va partir avec un vieux justement pour avoir la sécurité, et il se prostitue par nécessité. Oui, ça parle de ça aussi, effectivement.
Te prostituer par nécessité. Tu l'as fait, toi, Michel ?
Oui.
Non, lui, il le fait par plaisir.
C'est pas nécessité.
Ça va être du bénévolat. Hein,
bon. Bon, alors, donc, Sauvage à voir, il est toujours sur les écrans.
Sur les écrans, il cartonne. Mmh. Allez-y. Là, c'est du grand cinéma, vraiment. Hein. C'est, ouais. Il passe actuellement au Comédia, actuellement dans les cinémas Lumière.
Et tu voulais nous parler
d'un troisième film. Encore un premier film, donc, qui était en sélection officielle au Festival de Cannes.
Ouais.
Il s'appelle Girl. Et le film a remporté trois grands prix prestigieux. Il a remporté le prix donc de la Caméra d'Or, c'est-à-dire le prix du meilleur premier film, la Queer Palm, c'est-à-dire le meilleur film gay du LGBTQI du Festival de Cannes, ouais. Et puis aussi le prix d'interprétation pour son acteur qui est absolument incroyable. Je n'ai vu que la bande-annonce, je n'ai pas vu le film, je n'étais point à Cannes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le film, donc, il y aura une avant-première dans 2 semaines au Comédia, en présence du réalisateur. Donc le réalisateur, c'est Lucas Dont, qui s'est fait connaître aussi par de nombreux courts-métrages. C'est son premier long, il est belge, d'une beauté lui aussi à tomber par terre. Donc le film, l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire de Lara, 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile. Et avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps qu'elle a, bien en fait, elle est née garçon. Et donc c'est le film va parler de tout son comment dire sa lutte, son combat avec son corps en fait qui ne correspond pas à son identité puisque la danse c'est vraiment un métier un exercice de maîtrise de son corps et donc c'est vraiment un film sur le conflit là-dessus plus les rapports qu'elle a avec ses parents et puis avec elle-même. Alors c'est vraiment un film intéressant, je pense. C'est la première fois que la Queer Palm décerne son prix à un film traitant de transidentité. Il faut aller le voir. Donc il sort le 10 octobre, mais on peut le voir en avant-première en présence du réalisateur le 19 septembre au Comédia. Il va y avoir du monde.
Parce que le réalisateur est super sexy. exact.
Oui, oui. Et puis c'est un film dont tout le monde parle. Voilà.
C'est quoi la Queer Palm en fait? Je ne sais pas ce truc.
La Queer Palm, c'est le prix LGBT du Festival de Cannes qui a été créé en 2010 en fait et qui était pour récompenser le film qui mettait le mieux en valeur les questions LGBT parmi toutes les sélections du Festival de Cannes.
D'accord, c'est un truc officiel du festival?
Non, c'est pas officiel encore, ça le deviendra peut-être un jour, mais ça se base un petit peu, si vous voulez, sur ce que fait Berlin avec le Teddy Bear.
Oui.
Voilà. Et puis surtout, ça permet aussi...
Le Teddy Bear qui est une compétition à part entière, par contre.
Oui, c'est une compétition à part entière. Voilà, là, c'est une sélection.
Enfin,
voilà,
en parallèle du festival, quoi.
Voilà, c'est une sélection parmi toutes les sélections. Par contre, on voit depuis plusieurs années que le prix de la Queer Palm apparaît maintenant sur les affiches officielles des films. Et c'est une véritable victoire.
Une reconnaissance,
parce que ça donne quand même une visibilité et surtout une légitimité et une crédibilité à la culture queer et LGBT. Voilà.
Alors, ça tombe bien qu'on parle du Festival de Cannes, finalement, parce qu'il y a la Mostra de Venise qui va commencer. Et je crois qu'à la Mostra de Venise, il y a aussi une sélection parallèle.
Ça s'appelle le Queer Lion.
Voilà.
Oui, exact.
Qui est sur le même principe que la Queer Palm.
Sur le même principe, sauf que la Queer Palm, évidemment, c'est Cannes, donc c'est international.
Oui, oui, oui. Bah, la Mostra, c'est aussi un festival important.
Quand même. Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que Cannes, c'est le plus glamour, je dirais, de tous les festivals.
Là, c'est le Queer Lion.
Ouais. Et justement, à la Mostra de Venise, il y a Jacques Audiard qui a fait une petite gueulante, là. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Bien sûr.
En disant qu'il y avait des mecs. D'abord, ça m'a surpris de la part de Jacques Audiard. Ça t'a pas surpris?
Non, je trouve assez maniéré comme garçon. Ça fait longtemps que je me pose des questions.
Moi, je trouve un peu macho, au contraire.
Ah non, pas du tout. Moi, je trouve très sensible à toutes ces questions-là. Et là, elle a poussé un véritable coup de gueule en disant que, justement, c'était plutôt sur les organisateurs de festivals qui étaient plutôt des sélectionneurs, qui étaient tous des hommes.
Oui, voilà, déjà sur les sélectionneurs. Et puis, il a aussi parlé des réalisateurs, qui sont des réalisateurs, justement. Il y a très peu de réalisatrices, en fait. Qui sont présentés quoi dans la sélection de la Mostra de Venise et il parlait aussi en général surtout dans les festivals c'est essentiellement masculin quoi que ce soit la sélection les sélectionneurs le jury peut-être un peu moins mais les réalisateurs présents sont des réalisateurs justement non pas très peu de réalisatrices je crois qu'il y a une femme réalisatrice qui est représentée cette année ou à la Mostra de Venise
tu veux dire qu'on serait dans une société patriarche j'ai remarqué ça alors
mais c'est pour ça qu'il faut que le festival queer montre l'exemple aussi. La dernière édition d'Écran Mix, il y a eu plus de réalisatrices que de réalisateurs.
Il a dit par exemple là, sur la manifestation vénitienne, donc là de la Mostra de Venise, sur les 21 longs métrages en compétition. D'ailleurs, ça fait pas beaucoup, ça 21, il y en a plus à Cannes.
Non, c'est pareil.
D'accord. Ouais. Sur les 21 longs métrages en compétition, seul The Nightingale est dirigé par une femme, Jennifer Kent. C'est-à-dire sur 21 films,
il y a une réalisatrice.
Oui, alors que dans la réalité, il y a beaucoup plus de réalisatrices.
Voilà.
C'est sûr.
C'est pas parce que les femmes réalisent moins. Donc, c'est pour
d'autres
raisons.
Juste parce qu'elles ont moins de talent, tout simplement.
Mais en tout cas, tu me tapes.
Vas-y, mince. Mange-toi.
En tout cas, alors juste dans le cinéma mainstream, je sais pas. En tout cas, dans le cinéma queer, les femmes sont plus représentées, c'est sûr. Il y a plus de femmes qui font des films dans les thématiques queer. Donc peut-être que pour nous aussi, c'est plus facile de sélectionner des femmes par rapport au sujet, parce qu'elle réalise plus de sujets queer. Ben, je sais pas, par contre, dans le cinéma mainstream, ce qu'il en est. Ouais. En tout cas, il est évident que 1 pour 20, c'est pas possible. Ouais. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. On a exclu les femmes d'Hollywood dès le début, en fait. Hein, parce qu'au début, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hollywood était fait par des femmes. Elles ont été tout simplement giclées. D'ailleurs, il y a un grand documentaire là qui est en train d'être réalisé à ce sujet par la réalisatrice Chris Lagg, justement, qui est en train de faire un grand film enquête là-dessus sur les femmes réalisatrices. Et elles ont été exclues donc de cette industrie, de tout ça. Et maintenant, voilà, la reconquête se fera par par un effort d'égalité. Il faut que ça revienne. C'est certain. En tout cas, nous, en tant que festival queer, on est très sensible à ça.
Oui. Alors, c'est vrai qu'aussi, Écran Mix, vous y êtes sensible, puisque vous essayez d'avoir des thématiques ou des réalisatrices, en tout cas, régulièrement,
chaque
édition. Quoi.
Et puis, cette année, on a eu plus de films réalisés par des femmes que par des hommes.
Ouais, ouais.
Donc ça prouve bien que tout le monde peut faire un effort. Quoi.
Voilà. Laurence fait un effort.
Oui, très bien. Je vais aller réaliser un film et puis je vais le montrer à Venise. Ça fera 2/21.
Si tu veux, tu peux me prendre comme acteur sujet principal.
Si tu veux. Tu es nu, tu acceptes de
tourner nu. Ah oui, c'est un film gay, faut que ça va pas.
Ou alors tu vas directement en week-end à Venise, c'est déjà ça de gagner.
Ah. Je pense que Boris, on va t'inviter.
Ah ouais, mais j'avoue, ouais. Mais...
On va aller à Venise. Ensemble, ouais, ouais, il va aller faire la gondole là-bas.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Avec les pigeons, ouais.
Quand tu veux, mon bobo.
En tout cas, là, dans les trois films dont je vous ai parlé, il y en a un qui est réalisé par une femme.
Oui.
Une réalisatrice arménienne.
Arménienne ou iranienne ?
Iranienne, pardon. Ah, iranienne, pardon.
D'accord. Il ou elle ?
Elle ou elle, ou au cinéma opéra.
Parfait. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, le 5 septembre 2018, c'est la date anniversaire de la naissance de Freddie Mercury. Il aurait eu 72 ans, et on sait qu'il est décédé.
72. Oui.
72 ans. Ouais, ouais.
72.
Septembre. Absolument. 72. Et donc, on a décidé, on a pensé que ce serait judicieux de faire un petit, quelque chose de Freddie Mercury. Mmh. Voilà. Alors, Freddie Mercury, moi, je pensais, parce que je demandais à Lolo, enfin, choisir un titre, moi, je pensais que tu allais justement amener Barcelona, je sais pas pourquoi. Vu que tu as été à Barcelone, on s'est racalé à la guerre,
tout ça. Mais alors, je dois avouer quelque chose, je déteste cette chanson.
Ah, d'accord.
Putain, c'est nul.
Ah ouais.
C'est nul.
Ah oui.
Je dis doucement parce qu'au cas où si Freddy m'entend, je ne vais pas trop vexer non plus. Mais c'est nul.
Ah oui.
C'est, en fait, ça me fait de la peine de ne pas aimer parce que j'adore Freddie Mercury et que ce projet-là qu'il avait avec Montserrat Caballé, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur depuis des années. Vraiment faire autre chose que Queen, faire autre chose que du rock. Et il avait vraiment mis toutes ses tripes, quoi. Mais moi, je n'aime pas du tout. Mais bon, voilà.
Mais vous savez que le 24 octobre va sortir un biopic sur
Freddie
Mercury qui s'appelle Bohemian Rhapsody.
Oui.
C'est un film co-réalisé notamment par Bryan Singer, qui est un réalisateur homo. C'est lui qui avait réalisé les premiers films sur les X-Men, qui étaient aussi des paraboles un petit peu sur l'homosexualité.
D'accord.
Personnages différents, tout ça.
Ouais.
Donc c'est le 24 octobre, et le personnage de Freddie Mercury est joué par Rami Malek.
Ah. C'est tellement casse-gueule comme idée de film, je trouve.
Mais... Ouais. Ben, les biopics, ça peut être... Il y a du bien et du pas bien. Quoi. Mm. Tout dépend ce que le réalisateur met dans... Et sous quel angle il aborde le sujet. Hein. On a eu des biopics. Il y a eu, par exemple, le biopic sur Yves Saint-Laurent. Il y en a eu deux. Il y en a un qui n'était pas très réussi. Et puis l'autre qui était...
Ben, voilà, il y a eu le biopic officiel qui était vraiment très poli, très cadré, qui était très ennuyeux. Et puis, il y a eu un véritable film d'art absolument vertigineux qui s'appelait Saint-Laurent. Qui lui vraiment était pas vraiment un biopic, c'était.
Celui-là, c'est le film de Bonolo dont tu parles, non?
Oui, c'est ça.
Oui, oui, d'accord. Parce que moi, j'ai vu celui-là, j'ai pas vu l'autre. L'autre n'était pas bien. Donc
l'autre, pas voilà, bien. L'autre, c'était le film officiel, il était pas terrible. Voilà, les biopics, c'est toujours assez ennuyeux. Ouais. Ouais, on se rappelle le biopic sur Dalida, je sais pas si vous l'avez vu, c'est
une
catastrophe.
Non, j'ai pas voulu voir ça.
Sur Tina Turner.
Ah oui, je me souviens, Dalida, c'est une actrice italienne d'ailleurs qui avait représenté.
Tina Turner aussi, le film Tina.
Tina Turner, c'était toi. C'était toi qui faisais Tina Turner.
Et là, il y a celui de Whitney là qui sort.
Ah oui.
Non, c'est un documentaire. Qui sort aujourd'hui.
C'est un documentaire.
Moi, je pensais comme Boris que
moi, j'étais sur Netflix en avant-première.
C'est cher.
Bien. Donc, on parlait de. Pour revenir à nos moutons et à notre Freddie Mercury.
Oui.
Donc, voilà, il aurait eu 72 ans aujourd'hui. Il est né le 5 septembre 1946. Et comme on le sait, bon, il a été emporté par le sida en 1991, le 24 novembre.
Voilà. Oui.
Il avait donc 45 ans, c'est ça. Et tu nous as, je t'ai demandé d'amener donc un titre, qui ne sera pas Barcelona.
Non, ça ne sera pas Barcelona, je suis vraiment désolée.
C'est pas grave. Non, mais moi j'ai dit ça parce que tu étais en vacances
à
Barcelone.
Mais bien sûr.
Je le répète plusieurs fois pour que tout le monde sache que tu étais en vacances à Barcelone.
Merci Gérald. Mais j'ai quand même choisi une chanson où il est en solo. J'ai pas choisi une chanson de Queen.
D'accord.
Parce que, alors, il y avait... Le rêve qu'il avait de faire quelque chose hors rock et plus opéra, et il y avait aussi déjà le rêve de faire quelque chose en solo. À un moment, Queen, ils ont mis l'histoire, la carrière du groupe en parenthèse pour que chacun puisse développer les projets qu'ils avaient en solo. Et du coup, j'ai choisi.
C'est vrai qu'il a fait un album solo, en fait, Freddie Mercury.
Oui, bien sûr. J'ai choisi The Great Pretender.
Ouais. Qui est une des rares reprises de Queen, d'ailleurs, de Freddie Mercury, pas de Queen.
Oui, en général...
Parce qu'il ne reprenait pas les chansons
alors,
des autres.
Après, c'est un peu nébuleux, je trouve, la discographie solo de Freddie Mercury. Mmh. Parce qu'il y a ce qu'il a fait en solo après Queen, Et après, il y a des albums posthumes qui sont sortis, forcément.
Oui.
Alors, t'as les albums posthumes, après t'as les remixes, oui, les albums posthumes. Alors, pour t'en sortir là-dedans, bon, ouais, c'est, ouais, un peu compliqué. The Great Pretender, voilà, c'est sa version à lui, pas remixée.
Qui est une superbe version, qui va très bien, et qui met très bien en valeur sa voix phénoménale, on peut
exactement
le dire. Eh bien, on va écouter The Great Pretender.
One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Ooh, adrift in a world of my own. Ooh, I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. A crown, pretend that you're, pretend that you're still
En fait, c'est moi qui voulais Freddie Mercury quand il n'y avait plus de voix. Non, personne ne me croit.
Bon. C'était son essai.
Dommage. Alors donc, de retour pour la fin de cette émission. C'est bientôt fini, je vous rassure. Mais Michel, t'as pas beaucoup parlé.
Non, mais je vous ai écouté.
Non, mais la gloussée, ah, beaucoup gloussée.
Vous m'avez fait rire, voilà, c'est sympathique.
On a appris qu'il avait un vagin strident.
Oui, ça voilà, je savais pas, mais je crois que je vais garder la phrase, je vais l'enregistrer, c'est là, je sais, c'est pour moi. C'est un petit clin d'œil.
Merci. Oh, Michel, merci.
Oui, puis après, quand tu parlais des homos très cultivés, tu vois, tu prends Michel et du coup, ça fait baisser les statistiques.
Voilà, et si tu chantes, mais continue comme ça, mon petit. Oh, voilà, bonjour, comment va être terrible.
Ils vont aller à côté.
Ça se passe qu'on en reprépare bientôt, et là, je pourrais me venger, je ferai ce que je veux. Ça prend un risque, à mon avis.
Oh, mais moi, je prends tous les risques, je suis prêt à tout. Voilà. Avant de finir vite fait, on va parler de Whitney Houston et vous disiez des choses intéressantes. Je voulais faire partager aux auditeurs, aux auditrices dans sa biopic. Alors, est-il vrai, Laurence, que Whitney Houston... Je pourrais aller
retenir. Est-ce que c'est vrai, qu'elle était lesbienne?
Elle a eu une aventure avec une femme.
Oui, non, mais il y a une histoire avec elle, Kelly McGillis et Jodie Foster.
D'accord.
Jodie Foster.
Mais c'est la classe internationale.
C'est la classe de chez la classe.
Ouais.
Et alors attends, je sais plus dans quel ordre c'était. Je sais plus qui était avec qui au début. Alors il y a une histoire. Alors, attends, c'est une rumeur. Hein. Moi je sais pas. Hein. Bon, ouais. Alors apparemment, Whitney Houston était avec Kelly McGillis, avait une aventure avec Kelly McGillis. Kelly McGillis après a rencontré Jodie Foster. Ce qui a mis Whitney Houston dans une rage folle.
Ah oui.
Et apparemment, elle aurait cassé deux, trois petites choses dans la maison de Kelly McGillis. Bon, voilà.
D'accord.
Voilà.
Mais tu sais tout.
Je ne sais pas tout.
Ah, c'est
mais ça, dans le biopic dont on parlait, non, c'est pas un biopic.
Après, je ne savais pas si c'était le même documentaire qui sortait là au cinéma et celui de Netflix.
Mais en gros, sur Whitney Houston, à peu près tous les deux ans, il y a cette histoire d'homosexualité qui revient sur le tapis. Et à chaque fois, sa mère ou sa sœur, je ne sais plus qui,
est interviewée. Elle dit
Mais non, ce n'est pas vrai, c'est honteux de dire des choses pareilles. Ouais. Bon.
Ça s'appelle Whitney, le film tout court, ça sort aujourd'hui.
D'accord.
Mais qu'est-ce que c'est exactement, un biopic ?
Ah non, c'est un documentaire.
C'est un documentaire.
On va le voir cette semaine et on en parle la semaine prochaine.
Voilà, absolument.
Ce qui est sûr, c'est que dans le documentaire sur Netflix, il y a toute une partie effectivement sur sa relation donc avec Robin Crawford, qui est en fait son assistante.
Son assistante, exact.
Et pendant très très longtemps, elle va la suivre dans les tournées, etc. Et elle va jusqu'à alors certains disent qu'elle aurait eu après son compagnon Bob Ray Brown, mais en fait c'était pas une couverture parce qu'ils ont été ensemble, voilà, mais c'est aussi pour essayer de d'avoir une stature plus lisse. Et à plusieurs reprises il y a eu des grosses disputes entre cette assistante là et son mari, à tel point que l'entourage dit qu'ils ne se parlaient plus. L'assistante de Whitney et son mari le mari de Whitney ne se parlaient plus, ne s'adressaient plus la parole. Et à un moment donné, elle s'est séparée de cette assistante-là. Et aujourd'hui, cette assistante, d'ailleurs, est avec une femme, a des enfants, est mariée et vit aux États-Unis. Et ça a été une grande blessure, apparemment, pour Whitney Houston. Cette histoire-là. Donc après, on lui prête d'autres aventures, mais
c'est
ce qui est expliqué en tout cas dans le documentaire.
C'est tout sauf anecdotique. Whitney Houston aimait les femmes. Mais est-ce que dans le documentaire...
Ce n'est pas le même documentaire. Hein.
Ah.
Le film de Netflix s'appelle Whitney Can I Be Me, qui était sorti en 2016. Il était présenté notamment à Chéri Chéri, au dernier Chéri Chéri. Et là, c'est un nouveau film cinéma, documentaire cinéma, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Whitney tout court.
Heureusement, Guillaume est là pour... relever un peu le niveau. Hein.
Voilà, exactement. Parce qu'on ne peut pas compter sur Michel, comme on disait.
J'ai rien. Ça n'arrête pas de m'embêter.
Non, mais tu sais bien que nous, quand on aime bien, on châtie bien.
Donc même si, vous avez Netflix, vous pouvez aller voir le nouveau film sur Whitney, donc, qui est sorti aujourd'hui.
Il m'en veut, il me regarde, il me jette des regards.
Regarde YouTube, il s'arrive pas.
Il est en train de penser à ce que j'étais sur la vengeance.
Non, je me venge.
C'est un plat qui
est en train.
Fais gaffe, il a un vagin strident.
Il fait du bruit en plus.
Bon, très bien. Alors, il va bientôt falloir nous quitter. Mais jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'on revient la semaine prochaine. Non, je ne sais pas qui y aura, mais si vous voulez revenir, il n'y a pas de problème.
Michel, c'est quand tu veux.
Ouais, voilà. J'amènerai avec le balai, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est prêté à la folie, mais bon, je vais me débrouiller.
Et du coup, Yvan, je ne sais pas quand tu nous reviendras, puisque tu vas partir sous d'autres cieux.
Oui, je vais vivre en Marseille la majorité de mon temps, mais je vous ferai des interviews sur Marseille, notamment de Ludovic Mohamed, le fameux imam gay, qui vit à Marseille.
Que je dois aller rencontrer.
Qui est un ami, et je vous ferai une belle interview de lui.
D'accord, allez, très bien. Bon, eh bien, écoutez, pour terminer, je vous dirais que je ne sais pas si vous aimez Eddie Despréteaux. Non, personne n'aime,
T'es le seul à dire.
D'accord.
T'es le seul à dire Despréteaux.
Ouais, Despréteaux. Je crois qu'il passe ce week-end à un festival à Montmajalieu.
Voilà, ce que je voulais dire, il est à.
Ah, mais excuse-moi, je t'ai devancé.
C'est pas grave, hein, tu peux le dire, vas-y, c'est ça. Ça s'appelle Les Belles Journées de Bourgoin-Jallieu.
Tu sais que je suis né à Bourgoin-Jallieu.
Ah oui, t'es de Bourgoin.
On dit Jallieu.
Jallieu, c'est ça.
Et ils s'appellent comment les gens de Bourgoin ?
Les Berjaliens.
Berjaliens, d'accord. Rien à voir.
Les Berjaliens et Berjaliennes. Tous les Berjaliens, tout.
Même qu'avant, avant 1967, il y avait Bourgoin et il y avait Jallieu.
Ah oui.
Après, les deux sont... C'est intéressant.
Ah oui, c'est passionnant. Je suis sûr que les auditeurs n'ont pas regretté d'être restés jusqu'au bout.
Moi, ma maman, elle est née à Bourgoin et mon papa, il est né à Jallieu, par exemple.
D'accord.
C'est encore plus intéressant.
Ah, ouais. Ils sont mariés ensemble, mais ça fait Bourgoin-Jallieu.
C'est extraordinaire.
Ça fait une belle jeune femme, surtout.
On ne compte rien.
On a plus le temps d'écouter, c'est surtout ça le truc.
Bah oui, enfin, on l'a même pas, il est près de toi quelque part, mais on n'a pas cherché, on doit l'avoir sur là. Alors mets-nous ce que tu veux. 4 minutes, 3 minutes, 2
Ça va, c'est pas exceptionnel en même temps.
L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.